Bonjour, cet épisode a été enregistré le 27 avril 2011. Architect est un podcast sur les sujets d'architecture technique en français. Vous pouvez l'avoir en audio ou en vidéo. L'adresse de référence est architech.archims.fr, architech.archims.fr. Je suis Benjamin Guinbertière, architecte en système d'information dans la division plateforme et écosystème de Microsoft France.
Et je suis Thomas Conté, architecte en système d'information dans cette même division.
Aujourd'hui, Thomas, nous allons parler de la plateforme web.
Absolument, c'est le sujet du jour.
J'espère que cela vous intéressera. Eh bien, mon cher Thomas, voici le scroller.
Merci beaucoup. Et il faut aussi le focus.
Et voilà.
Donc, aujourd'hui, toujours dans la série de nos futures pages par discipline,
voilà,
sur le site architecture MSDN France, la plateforme web Microsoft.
Oui, vaste sujet.
Vaste sujet, absolument. Donc, comme toujours, quelques petits liens. Le lien ici n'est pas marqué, mais c'est web.archims.fr, l'adresse de la page.
D'accord.
Forum.archims.fr, le forum LinkedIn, pour échanger, discuter autour des architectures applicatives Microsoft.
D'accord.
Et si vous avez des questions, des idées, des projets, quoi que ce soit, web.archims.fr pour communiquer avec nous.
Cool.
Voilà, la table des matières. Donc, effectivement, le sujet est vaste. On pourrait le prendre de différentes façons. Donc, une vue d'ensemble, en fait, pour essayer de découper tous les composants et les éléments les répartir pour les ranger un petit peu, et puis après un tour d'ensemble de ce que j'ai divisé en infrastructure globalement et en plateforme applicative.
Ouais, d'accord.
Ok. Donc, la vue d'ensemble, la voici. Alors, la plateforme web Microsoft, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose qui évolue très vite, beaucoup, surtout ces temps-ci. Bon, donc il y a une adresse de référence qui est wmicrosoft.com/web, dans laquelle on retrouve un peu tous les éléments de la plateforme, un peu tout ça, c'est un bon point de départ, c'est pas le seul, mais c'est un bon point de départ. Donc ce qui se passe, l'évolution de la plateforme web Microsoft, elle se fait surtout par un ciblage ou une division des technologies par profil, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que le web aujourd'hui c'est visé pour faire un peu tout.
Oui.
Donc il y a différents développeurs qui font différentes applications, différents types d'applications, et donc on a essayé de spécialiser un peu la plateforme web finalement en fonction de ces différents types d'applications.
D'accord.
Donc les cibles un peu que j'ai remis là avec mes mots à moi, hein, c'est les développeurs en entreprise qui font des applications métiers. Ça c'est un peu schématique, mais développeurs d'entreprise, donc c'est de l'intranet, peut-être c'est
une
application métier.
Typiquement de l'intranet, mais ça peut être aussi sur extranet ou autre chose.
Ou ça peut être du back-office d'une application web, etc. Mais généralement, c'est quelque chose qui est plutôt transactionnel, qui a plutôt une durée de vie assez longue.
Ouais.
Voilà. Et je dirais là où on a beaucoup de nouveautés, c'est tout ce qui cible les développeurs web plus classiques, on va dire, les sites web dynamiques. Donc les gens qui travaillent en agence interactive, en agence web, chez des intégrateurs, mais qui font des sites web événementiels, des sites web qui n'ont peut-être pas une durée de vie de plusieurs années.
Ouais, du jetable peut-être, mais sur Internet.
Voire peut-être du jetable, effectivement, et qui ont besoin plutôt de solutions légères, rapides.
Ouais.
Voilà, et dans le web, il y a aussi une grosse proportion des utilisateurs. Alors, on parle même presque plus de développeurs,
ouais.
Ce sont vraiment des utilisateurs qui montent des sites web et qui veulent des solutions prête à l'emploi.
D'accord, un peu dans l'esprit web 2.0, enfin,
voilà,
pas complètement dans le sens où c'est pas l'utilisateur final, mais voilà, c'est l'administrateur fonctionnel du site.
C'est l'administrateur fonctionnel, c'est quelqu'un qui a un peu le chapeau, il n'est pas vraiment développeur, il sait faire un peu de HTML, il sait paramétrer un logiciel, il sait l'installer quelque part chez un hébergeur pour rendre un service sur le web.
D'accord.
Voilà, donc un peu, j'ai divisé ça en trois, et on va voir, tout ça est très très actif. Hein. Ensuite, j'ai fait un peu deux niveaux, parce que finalement, on a un socle commun.
Ouais.
On a un socle commun qui est Windows Server, évidemment, avec notamment 2IS, là j'ai mis 2IS ARR, mais il y a d'autres choses. Hein.
Internet Information Service et Application Request Routing.
Absolument, on y revient après. SQL Server, évidemment, la base de données relationnelle, parce que...
Structure Query Language.
Absolument. Monsieur est fort en acronyme, bravo. Et WSAF.
Ouais. Hein,
bien sûr, donc Windows Server, App Fabric. Donc SQL Server, la base de données relationnelle, hein, forcément. AppFabric, que j'ai mis là, puisque c'est un, finalement un service, un composant middle tier, un composant de service applicatif, qu'on va utiliser peut-être plus, enfin on l'imagine peut-être plus dans des scénarios entreprise, application, métier,
ouais.
Mais quoi qu'il en soit, il expose un certain nombre de services, on peut les utiliser depuis la plateforme web Microsoft en général.
D'accord.
Donc l'infrastructure, c'est ce que j'appelle l'infrastructure quelque part. Donc c'est le socle commun de la plateforme web. Et puis au-dessus, c'est différents types de plateformes applicatives. Alors juste très rapidement, et puis après on revient dans le détail. Hein. Ici, on est sur quelque chose qui est typiquement de l'ASP.NET. Alors c'est de l'ASP.NET. Mais ouais. Finalement, il y en a plein de moutures différentes maintenant. Donc de l'ASP.NET MVC WebForms avec typiquement de l'Entity Framework en dessous qu'on développe dans Visual Studio.
Alors,
c'est le truc que je résume, mais voilà. Cette nouvelle stack, quelque part, qui est plus récente, c'est ASP.NET Web Pages, subtilité, mm-hmm. C'est pas le même nom. J'y accède avec quelque chose qui s'appelle WebMatrix Data, et je développe dans WebMatrix.
D'accord.
Différents outils, etc. Le point commun entre ces deux choses-là, c'est qu'on a une gamme d'outils qui s'appelle Expression Web, et qui peut être utilisée par tout le monde.
D'accord.
Du côté des sites web prêts à l'emploi, la nouveauté qu'on voit là, c'est PHP, quelque part. Bon, tout ça, c'est full.NET, mais ouais. On a fait quand même une bonne place à PHP
ouais.
Pour permettre aux gens qui veulent faire typiquement du WordPress, du Drupal, et ben, de pouvoir faire ça sur la plateforme Windows, donc sur ce socle commun.
Oui, sachant qu'IIS a un bon moteur PHP, donc...
Exactement, c'est exactement ça.
Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne sais même pas ce que ça veut dire que PHP.
Non plus.
Et PDO ?
PHP Data Object.
D'accord.
Ouf, c'était chaud. PHP, je crois que ça se perd dans la nuit des temps. Je crois que l'acronyme n'a pas grand chose à voir avec ce que ça fait aujourd'hui. Donc voilà, on a. Oui, donc ce qui est intéressant à noter, c'est que tout ça n'est pas, bien entendu, c'est pas monolithique et c'est pas exclusif. C'est-à-dire que je suis pas obligé de faire que ça ou que ça.
Ouais.
Je peux mélanger tout ça. Hein. Je peux faire de l'ASP.NET Web Pages avec l'Entity Framework.
D'un point de vue architecture, ce qu'on peut dire, c'est que, que ça et ça et ça, par exemple, ça va s'appuyer sur le moteur ASP.NET.
Exactement.
Qu'on fasse même des WebForms ou des MVC ou des ASP.NET Web Pages, tout ça, ça s'exécute dans un pipeline ASP.NET. De .NET Framework, etc.
Et on peut très bien imaginer avoir des systèmes, des applications qui mixent les deux, avoir un back-office qui est développé par une certaine équipe avec des technos MVC, de l'Entity Framework, et avoir un frontal qui est développé par des équipes différentes qui ont peut-être plus des compétences de design ou d'expérience utilisateur avec du WebMatrix et des WebPages.
Et avec IIS 7.5 ou IIS 7 même, on peut même avoir des pages PHP avec une authentification en ASP.NET avec WIF si on veut. Enfin, on peut imaginer des.
On peut mixer tout ça.
Des mix intéressants.
Voilà, donc alors un peu plus dans le détail, l'infrastructure. Donc dans Windows Server, on a effectivement 2IS. Bon, on pourrait parler beaucoup de 2IS. Il me semble que les points clés hein, qui sont quand même à redire sur 2IS depuis la version 7, c'est qu'on a une infrastructure
de Windows Server 2008
et 7.5, la version de 2008 R2.
Ouais.
C'est qu'on a d'abord un moteur qui a été modularisé, donc on a une infrastructure complètement modulaire, complètement à par rapport à avant où c'était plutôt monolithique.
Ouais.
Donc on peut uniquement activer les modules dont on a besoin et pas plus. Donc
d'accord.
On réduit l'empreinte système, on améliore la sécurité, etc.
La
surface d'attaque, exactement. On peut faire du web server, que du Windows Server Core, voilà, si on veut se débarrasser même de l'interface graphique, etc. Donc 2IS, enfin,
l'interface graphique de côté serveur, pas
côté serveur,
de côté hein,
d'utilisateur. Ouais, donc 2IS à revoir. On a aussi plein de modules qui n'existaient pas forcément avant, qui ont été introduits. Donc URL rewriting, notamment, hein, qui est assez sophistiqué. Qui est très, très utilisé.
Qui permet de présenter des URL propres aux utilisateurs. Enfin...
Voilà, de manipuler les URL, donc les réécrire, enlever des extensions, des choses comme ça. Donc typiquement, si j'ai un URL qui est slash toto slash index PHP, point d'interrogation, quelque chose égale truc, je peux le transformer en slash toto slash truc.
Une différence importante par rapport à il y a 5 ans par exemple, c'est que l'URL fait vraiment partie de l'ergonomie du site quoi, maintenant.
Oui, maintenant l'URL, les gens regardent ça de très très près. Hein. On va y revenir un peu avec les architectures REST, etc. Donc l'URL rewriting, donc, c'est équivalent au mode rewrite Apache, c'est très utilisé dans le monde PHP et également dans le monde .NET, ça permet de manipuler les URL et de faire plein de trucs et astuces avec ça. On a aussi tout ce qui est gestion des fermes, d'accord
ouais.
Donc il y a plein d'aspects là-dedans. On a de la configuration partagée qui permet d'avoir une ferme 2IS qui partage la même configuration et de ne pas
d'accord.
avoir à gérer la configuration machine par machine. On a quelque chose qui s'appelle le Web Deployment Tool qui permet de déployer une application sur N serveurs 2IS, hein, donc sur l'ensemble de la ferme. Tout ça sont des choses qu'on retrouve à l'adresse www.iis.net,
oui.
Qui est le lien qui est là.
Oui, et bizarrement, le site de référence d'IIS n'est pas sur le site de Microsoft, il est sur
IIS.net. Il est sur son site à lui, de IIS.net. Absolument, ouais. C'est vrai qu'il faut le savoir. Et on y trouve des références sur tous ces modules. Il y a un certain nombre de ces modules qui sont en téléchargement additionnel. C'est le cas également de ARR, Application Request Routing, qui permet donc de gérer sa ferme en y répartissant la charge et en automatisant toutes les opérations de configuration qui vont avec. Et sur le sujet, nous avions fait un architecte spécial
Ferme et jardin.
Jardins, voilà, où on parlait de ARR. Donc, SQL Server, bon là, sur la partie web, on va y revenir, c'est la solution, c'est le moteur relationnel. Dans le web, c'est beaucoup utilisé pour le relationnel, mais aussi pour le BI, pour plein d'autres choses. Et on utilise les configurations hautement disponibles habituelles qu'on a avec SQL Server. C'est un peu le point incontournable avec 2IS. Après, sur certaines architectures, on va faire appel donc à Windows Server App Fabric.
App Fabric, serveur d'application en gros.
Serveur d'application de Microsoft, hein, globalement. Donc, utilisable dans plein de cas différents, notamment dans le web. Dans le web, là, ce qui intéresse souvent le plus les gens, c'est le cache. D'accord ? Donc, dans les applications web, on aime bien cacher les choses pour la performance. Hein, c'est bien. On peut faire du cache mémoire locale sur la machine.
Ouais.
On peut cacher les pages. OK. 2IS et ASP.NET savent cacher les pages en mémoire, par exemple.
Donc ça, indépendamment de Windows, ça va à Fabric
cacher. Oui, avec l'output cache. Par contre, ce que permet à Fabric caching, eh bien, c'est de cacher les objets.
D'accord, et de le faire de façon distribuée.
Et de façon distribuée, exactement. Donc on peut avoir une ferme de serveurs de cache qui permettent d'avoir un cache mémoire distribué et hautement disponible.
D'accord.
Et par ailleurs, eh bien, on peut hoster des workflows, hoster des services au sein de serveurs à fabrique.
Service au sens WCF,
voilà, WCS,
SOAP, WEP,
WF,
SOA, enfin,
oui, tout à fait.
Et WF, ces services-là.
Donc c'est ce qui s'appelait avant au Dublin, de son ouais. nom de code.
Disons.
Voilà. Donc après, bien sûr, tout dépend de l'architecture, de si on est sur une architecture 3 tiers ou pas, etc. Mais typiquement, on utilisera Fabric pour cette partie un peu middle tier, si on le souhaite.
Bien.
Voilà, donc après, finalement, on a c'est un peu ces deux plateformes web. Alors, je vais donner des petits noms, hein, la traditionnelle et la légère.
D'accord. Alors,
elles n'ont pas de nom officiel. Hein,
donc mais là, le scénario plutôt d'entreprise, et là, le scénario
part,
plutôt web.
Bah, web dynamique, ouais. Site web institutionnel ou, voilà,
d'accord.
Ou événementiel. Alors, tout ça, voilà. C'est encore une fois pour essayer de trier les technos.
Commençons par la tradition.
Voilà, la tradition, exactement. Donc, à chaque fois, j'ai fait accès aux données, couche de présentation, outils, hein, globalement.
Ça semble pas mal.
Donc, l'accès aux données, donc aujourd'hui, Entity Framework,
ouais.
C'est un peu, malgré tout, la technologie d'accès aux données par défaut
ouais.
dans la plateforme. D'accord ? Par défaut, ça veut dire quoi ? C'est celle qui est la mieux intégrée dans Visual Studio, y compris dans les frameworks aussi, donc dans MVC dont on va parler. Notamment la dernière version, on a une intégration forte avec Entity Framework. Si vous avez fait un peu de OData, etc., on construit tout au-dessus d'Entity Framework.
Bon. Donc l'ORM.
Notre ORM. Donc,
Object voilà, Relational Mapping.
Exactement. Donc ça permet de modéliser finalement la base de données physique, de modéliser les objets, et ça fait le pont entre les deux.
D'accord.
Donc à la fois ça exécute des requêtes et puis ça renvoie des objets, ce qui est quand même bien pratique plutôt que de le faire à la main. Et dans l'autre sens, on peut interroger la base avec du link to entities plutôt que de faire du SQL. Donc c'est intéressant, c'est l'intérêt. Bon, cela dit, il y a encore plein d'autres alternatives en termes d'accès aux données. Hein. On a le pur ADO.NET, bien entendu. On a plein de solutions open source, exactement, comme Illuminernet, qui est un autre ORM un peu inspiré du monde Java, qui est assez populaire dans le domaine du web.
Ouais.
Donc, on a finalement un choix hein, de mode d'accès aux données, même si Entity Framework aujourd'hui est un peu su par défaut.
D'accord.
Il y avait une session d'ailleurs au Tech Days 2011 sur le sujet. On rajoutera le lien.
Très bien.
Au niveau de la couche de présentation, bon, c'est là qu'il y a eu aussi la nouveauté. Hein, donc, c'est un peu fractal. Hein, à chaque fois, on descend et puis ça se redivise encore à chaque fois. Donc ASP.NET, on a dit que ASP.NET c'est la couche web voilà. Mais il y en a encore une fois deux, y a deux parfums différents.
De mouture.
Voilà. Il y a ASP.NET Web Forms, donc ça c'est l'original,
ouais.
On peut dire, c'est the original.
Les fameuses pages ASP.X.
Voilà, les pages ASP.X, donc ça c'est ce qui est apparu.
Avec la view state, etc.
La view state, c'est apparu avec le framework .NET 2.0.
Ouais.
On peut dire que la spécificité d'être ça, c'est que finalement ça cache un peu les techno web. Ça cache un peu le HTTP, ça cache un peu le HTML, parce qu'on a quoi? On a des contrôles ASP.NET. Les contrôles, ça peut être faire des boutons, des champs de saisie, etc., sans avoir à taper du HTML.
L'idée de base était de programmer ça comme du VB6 ou comme
exactement,
du WinForms.
Exactement, ça ressemble à du WinForms et ça cache un peu, ça abstrait un peu les spécificités du web. Donc on a le data binding, hein, quelque chose qui est vraiment très familier, hein,
ouais.
Pour les développeurs .NET, le view state, donc il permet que de simuler une sorte de, on va dire de pallier le fait qu'on est sur quelque chose qui est stateless,
ouais.
Et de simuler un état avec le view state. Donc tout ça, WebForms, ça marche très bien, on connaît très bien, etc. Maintenant, on a aussi quelque chose de plus récent qui s'appelle ASP.NET MVC.
Le view state, là, je pense juste à ça, c'est typiquement, ça stocke l'état dans un input de type
voilà.
Hidden. En fait.
Ça cache, dans un input, ça cache l'état de tous les contrôles, des choses comme ça.
Ouais.
De façon à restaurer, quand on revient sur sur la page, l'état de tous les contrôles, les boutons, etc.
ASP.NET MVC.
ASP.NET MVC, donc c'est plus récent.
Model View Controller.
Model View Controller, voilà. Un pattern de développement d'applications qui est vieux comme le monde ou presque, hein, qui a été adopté par les développeurs web assez massivement.
Ouais.
Et par Microsoft également. Donc là, il y a un peu deux aspects. Il y a donc premièrement le pattern lui-même.
Ouais.
Hein, donc Model View Controller, donc là aussi, on pourrait faire un épisode juste dessus, hein, mais on divise donc le modèle d'affichage. La vue qui est par exemple le HTML pour une application web et le contrôleur qui prend les décisions,
ouais,
et qui fait
pour la cinématique.
Voilà, il a cliqué sur tel lien, donc il faut que j'aille faire telle action, etc. Et puis en fonction du résultat de l'action ou d'autres paramètres, je choisis une vue que j'affiche au développeur. Donc modèle de développement complètement différent de WebForms. Hein. Mmh. Alors, ça s'appuie sur la ASP.NET, donc le framework reste commun, on retrouve toutes les classes d'accès. Au contexte HTTP, etc. Par contre, après, on a un modèle de développement qui est vraiment très différent.
Okay.
Et la principale différenciation, c'est qu'au lieu de cacher le web, eh ben, on l'expose au contraire complètement. Donc quand on fait du MVC, on fait du HTML, on n'a plus de contrôle, voilà, on n'a plus de grid view, on n'a plus de data binding. Alors quand on vient de WebForms, on se sent un peu perdu au début. Donc on replonge vraiment dans les technos du web. Donc le HTML, le HTTP, le JavaScript. Parce que pour pallier, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans le monde de non.NET, hein, quand on n'a pas de data binding, comment est-ce qu'on fait pour, à partir de données, recréer automatiquement, je sais pas, des tableaux, des tables, des grids, etc. On fait du JavaScript.
Ouais.
Donc par exemple, on travaille beaucoup avec les gens de jQuery,
oui,
pour intégrer les librairies jQuery directement dans un projet MVC. Plus récemment, avec les gens de Modernizer, pour faciliter le développement d'applications HTML5 cross-navigateur. Voilà, donc on adopte vraiment toutes ces technos pure web. Voilà.
En contrepartie, la page HTML qu'on obtient du point de vue de l'utilisateur final est plus pure, entre guillemets, que celle qu'on aurait
exactement
avec la ASP.NET WebForms.
On a bien un contrôle complet du HTML généré. On peut contrôler vraiment à la virgule près le HTML généré, ce qui est quand même plus difficile en WebForms, on va dire, hein, pour être gentil. Et pour les sites web modernes, c'est vraiment important parce qu'on veut avoir un markup, donc un HTML qui est parfaitement adapté au navigateur, voire même est-ce que c'est un navigateur mobile, un navigateur pas mobile, une tablette, etc. On a besoin d'avoir un contrôle fin, et ça, c'est difficile à faire avec WebForms.
Ouais.
Donc MVC apporte ça. Et d'autre part, MVC avec le modèle à base de routage d'URL, c'est-à-dire que le contrôleur s'appuie finalement sur des URL pour savoir où est-ce qu'il en est.
Ouais.
Donc une action est déterminée par l'URL. Donc on a un système de routage d'URL et ça favorise les architectures, les implémentations de type REST. Parce que REST, ça s'appuie donc sur la représentation de ressources via des URL. Hein, REST, c'est Representational State Transfer.
Ouais.
Et l'idée, c'est qu'on architecture son application sous forme de ressources. Une ressource est représentée par un URL. Et ça s'implémente complètement naturellement avec un framework MVC. Et ça aussi, aujourd'hui, sur le web, c'est important pour plein de raisons, pour le SEO, pour pouvoir... Search Engine Optimization, exactement, être bien ranké dans Bing, Google et autres. Il y en a d'autres? Non. Et également, si on veut exposer des API, ça se fait beaucoup, les API de données ou autres, l'architecture REST est aujourd'hui vraiment favorisée. Voilà, et juste en conclusion, on a investi sur plusieurs View Engines. Le View Engine, d'accord, c'est la façon dont on va écrire ses vues.
Okay.
Au début, on fournissait un View Engine ASPX. Donc, ouais, assez bizarrement, on faisait de l'ASPX dans MVC. Mm-hmm. Okay. Plus récemment, donc, on a sorti un nouveau View Engine dont le nom de code était Razor,
ouais,
et dont le nom final est ASP.NET Web Pages, ce qui est extrêmement confusant, hein, donc, parce qu'on ne confond pas, il ne faut pas confondre ASP.NET Web Pages avec ASP.NET Web Forms. C'est pas la même chose, la syntaxe est différente, elle est plus succincte, plus courte, elle a une extension différente, c'est .cshtml.
D'accord.
Et globalement, en fait, pour switcher en mode code, on fait juste un arrobas. Arrobas for
au lieu des inférieurs %.
Exactement. Donc c'est plus succinct, c'est plus simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette même syntaxe dans WebMatrix, donc dans la plateforme légère, qui est juste après.
D'accord.
Voilà. Donc on en reparlera un petit peu à ce moment-là.
Au
niveau des outils, bah alors là, on est dans vraiment la plateforme de développement Microsoft traditionnelle.
D'accord.
Visual Studio,
ouais,
hein, on est bien d'accord qu'il vise quand même plutôt le développeur d'entreprise, y compris avec l'intégration d'ALM, TFS,
Application Life Cycle Management,
donc la gestion du cycle de vie de l'application avec TFS,
Team Foundation Server, etc. Moi aussi, c'est pas un acronyme.
Moi aussi, je connais les acronymes.
etc. Ça n'est pas.
Non, etc. Et donc, ça veut dire que voilà, on a un environnement de développement d'entreprise classique complet. Hein, les tests unitaires, tout ce qu'on veut. Ce qui est différent après du mode de développement de la plateforme .NET légère. Et Expression Web, donc pas aussi connu que ça, donc la gamme d'outils Microsoft vraiment à destination des designers.
D'accord.
Des concepteurs graphiques, et notamment Expression Web, qui est notre éditeur de pages web.
D'accord.
Donc on peut typiquement avoir des développeurs qui développent dans Visual Studio, et puis des concepteurs graphiques ou des HTMListes, comme je les appelle, qui font de l'Expression Web pour créer les modèles, les vues, des choses comme ça. Ça, c'est la plateforme traditionnelle.
D'accord. La magie du montage fait que on a réussi à faire s'arrêter le temps et trouver ce que voulait dire PHP.
Ah, ça veut dire quoi PHP? T'es fort en acronyme, toi.
PHP, donc c'est PHP Hypertext Preprocessor. C'est un acronyme récursif.
Récursif.
Comme il en existe quelques-uns.
D'accord.
Comme par exemple YAC, Yet Another C Compiler. Non, c'est pas un récursif.
C'est pas récursif.
Non, c'est pas récursif.
Il y a GNU is not Unix.
Oui. Par exemple. Très bien, nous passons à la plateforme web.net légère.
Voilà. Donc, alors, c'est vrai que nous on s'occupe souvent des développements en entreprise, etc. Donc, ouais, j'ai un peu moins développé la chose, puisque quelque part, ce qu'on cible là, c'est justement à peu près tout sauf le monde de l'entreprise.
D'accord.
Pour, schématiquement. Hein.
Bon, ben je me casse.
Même si, bon, à vrai dire, tout le monde peut l'utiliser, et
ouais,
je vais y revenir. Hein. Donc l'idée est simplement que quand on a besoin de développer un site web, non pas une application web, etc., mais simplement un site web, donc quelque chose qui affiche, pas quelque chose qui affiche forcément des formulaires, qui fait des transactions, etc., ouais, mais juste des pages avec des images et des liens,
ouais,
hein, c'est ça un site web, hein, et ben on n'a pas forcément besoin d'une approche industrielle du développement, avec du Visual Studio, du TFS, du Entity Framework, etc. On a besoin de quelque chose de simple, rapide, léger, pas cher.
Ouais.
Et donc ça, c'est cette nouvelle stack.
Alors simple dans les cas simples.
Voilà, exactement. Et alors, cela dit, ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas servir en entreprise. Donc, une entreprise, ça fait des applications, ok, mais ça fait aussi des sites web.
Je reste alors.
Voilà, tu peux rester. Donc c'est simplement qu'au sein d'une entreprise, on a différents types de développeurs, et à chaque développeur, son outil, à chaque je dirais projet, son outil également. Donc là, c'est une stack complète, quelque part, qui est basée sur .NET, qui est basée sur Windows Server, etc. Mais qui vient avec pas mal de pièces additionnelles. Donc la stack, c'est quoi?
Donc au niveau architecture fondamentale, c'est pareil, c'est IIS, c'est ASP.NET.
C'est IIS, c'est ASP.NET, c'est SQL Server.
Et donc du coup, dessous, on peut utiliser de l'ARR, on peut utiliser, on peut même mixer avec les mécanismes d'entreprise si on veut avoir une partie du site comme ça. Donc voilà.
Exactement.
Mais l'outillage et la
il
forme que ça prend,
en fait,
et ça voilà.
Et notamment pour le poste de travail du développeur,
ouais,
là où typiquement on a besoin d'activer deux IIS, d'installer Visual Studio, d'installer SQL Express, etc. Ce qui nécessite quand même un certain nombre de compétences
ouais,
pour le faire et maintenir tout ça en fonctionnement. Là ici on a une stack légère qui vient avec des nouveaux composants qui s'appellent deux IIS Express, Donc c'est un BusyS, mais en mode utilisateur.
D'accord.
Qui s'installe dans Program Files et qui tourne tout seul.
D'accord.
Pas besoin d'être administrateur.
Ouais.
Et voilà. Donc n'importe quel poste, on installe IIS Express, on peut le lancer. On a un SQL Server compact, qui est un SQL Server en mémoire. Donc il n'y a pas de process qui tourne. Il y a
pas un service Windows.
C'est pas un service Windows, rien installé. Et ça simule un SQL Server.
Ouais.
Et puis WebMatrix, qui est une IDE, donc un environnement de développement.
Développement d'environnement.
Léger, qui permet de développer l'application et puis d'intégrer tout ça. Donc je fais run, site, ça me lance, de JS Express, ça m'affiche ma page. Et après, mon mode de développement, c'est plus du scripting. C'est-à-dire, je modifie ma page, je reload. Il n'y a pas de recompilation, etc.
Voilà. Très bien.
Et puis pour installer tout ça encore plus simplement, on a un truc qui s'appelle le Web Platform Installer.
D'accord.
Qui va vous installer tout ça sur la machine.
D'accord. Donc là, en fait, c'est un mode de. D'installation, on a, une fois qu'on a WebPI, qui lui-même s'installe assez facilement,
tout à fait.
On choisit l'élément qu'on veut utiliser à la fin, et puis il va installer toutes les dépendances,
etc.
Il télécharge ça du web. Et...
Donc, typiquement, on demande WebMatrix et il met tout ce qu'il faut avec.
D'accord. Voilà.
Alors, cela dit, c'est vrai que Web Platform Installer, on peut parfaitement l'utiliser pour installer également Entity Framework, le service pack de Visual Studio, etc., et MVC. Hein. Mais dans le cadre de la plateforme Ledger, ça va bien ensemble.
Ça peut même se scripter dans cette partie-là, ça peut même se scripter pour une installation industrielle, pour peu que le serveur soit connecté au web, ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise.
Mais on peut l'utiliser pour automatiser.
Dans le sens.
dans ce sens-là.
Ouais.
Donc, alors. En gros, les grosses nouveautés, enfin, les grosses différences, au niveau de l'accès à données, on met en avant, alors encore une fois, on peut faire d'Entity, etc., hein, parce que c'est du .NET, hein, on fait du C#, etc.
D'accord.
Mais on a une DLL, un espèce webmatrix.data, qui propose un accès hyper léger d'accès aux données, c'est je mets mon statement SQL directement dans le code de la page, select star from chose, et basta. Et, par contre, ça utilise le DLR, donc le Dynamic Language Runtime, pour dynamiquement envoyer des objets sur lesquels je peux appeler des propriétés qui auront le même nom que les colonnes de ma table. Mmh. Donc c'est une espèce de mapping objet hyper simplifié.
D'accord, avec convention plutôt que configuration.
Voilà, exactement. Et globalement, voilà, c'est une DLL dans laquelle il y a trois classes, donc c'est super simple et je peux démarrer tout de suite. Alors ça, la sortie de, cette méthode a donné lieu à certaines discussions sur Internet parce que c'était vu comme un retour en arrière, c'est-à-dire mettre directement mon SQL dans le code de ma page web. Quand on compare ça à MVC dans lequel j'ai une vue qui est proprement séparée de mon modèle et même le modèle lui-même n'est pas forcément exactement les objets mappés sur ma base.
Là, c'est du mapping 1-1. Quoi.
C'est du dur. Hein.
C'est en direct du moteur. Quoi.
Mais voilà, il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle encore une fois de sites web.
Oui, c'est une question de positionnement et d'être simple avec Async.
Exactement. Donc, webmatrix.data. Au niveau de la couche de présentation, donc là, on n'a pas de MVC, rien, on a du scripting. Hein, ça ressemble, c'est un peu le même principe que l'ASP, pas .NET. L'ASP d'avant, .NET. Le classique ASP, exactement.
Application Server Pages.
Ah oui, bel acronyme. Donc ça s'appelle donc Razor Web Pages, on en a parlé avant, et donc là on fait directement du .cshtml, donc à la fin on a des pages qui s'appellent toto.cshtml dans lequel le code est mélangé avec la présentation.
Dedans on va avoir par exemple le code HTML, ça va être la date d'aujourd'hui est, et puis
.now, voilà, exactement. Exactement, tout simplement.
Okay.
Et donc après, on a tout ce qu'il faut pour aller installer ça, parce que quand on veut exécuter ça sur en local, tout ça, ça marche très bien. Quand on veut installer ça sur un serveur, effectivement, il y a 2-3 DLL installés dans 2 IS de production.
Ouais.
D'accord. Donc on a les procédures qui vont bien pour faire ça.
Sachant que WebPI peut le faire aussi en ligne de commande.
Bien entendu. Donc sur les composants serveurs pour WebMatrix, on va dire. Et donc WebMatrix, c'est l'outil gratuit. Qui permet d'éditer les pages CSHTML, de tester et donc de la déployer. Donc là-dessus, soit on va les déployer chez un hébergeur, soit sur ses propres infrastructures, et on va typiquement utiliser donc, la technologie WebDeploy, la même qu'on a vu avant. Ici, elle est packagée de façon beaucoup plus simple, on va dire.
Ok.
Voilà pour la plateforme web.net légère.
Très
et
bien.
Là, on a fini avec les développeurs.
Ouais.
Et juste, j'ai mis quelques mentions donc, sur la partie. CMS, on va dire, le site web pré-emploi et puis les CMS.
Content
Management
Server.
Voilà. Donc, ça veut dire quoi ça? Des CMS. Donc, les CMS, c'est ce qui est utilisé par des gens qui ne sont pas techniques pour créer des sites web avec zéro développement. Donc, je prends WordPress. Alors, Alors, les CMS. Les CMS les plus populaires sont sur la plateforme PHP.
D'accord.
C'est comme ça. Hein, c'est la communauté PHP produit WordPress, produit Drupal, qui sont les CMS les plus utilisés aujourd'hui sur Internet. Et donc là, c'est simplement l'idée de dire qu'ils tournent très bien sur la plateforme Windows Server, SQL Server, 2IS, etc. Donc, on a travaillé avec la communauté PHP pour améliorer
le CMS. C'est de l'open source. Hein.
C'est de l'open source, tout à fait. La communauté PHP, WordPress, Drupal, c'est une communauté. Il n'y a pas un éditeur derrière. Les développeurs qui contribuent au projet. Et nous, ce qu'on a fait, donc on a investi Microsoft sur 2IS pour améliorer FastCGI pour que PHP tourne effectivement bien. Voire même, on est intervenu au niveau de PHP pour qu'il tourne mieux sur Windows, implémenter des systèmes de cache permettant de cacher le code compilé par PHP à la volée, et puis développer des drivers SQL Server pour PHP.
D'accord.
Parce que c'est vrai que il n'y avait pas grand chose de très très développé. Donc là, on a des drivers écrits par Microsoft à la norme PDO, donc PHP ouais. Data Object, qui est une norme assez récente dans le monde PHP, et voilà, qui est testée par nous, approuvée, etc. Donc ça veut dire qu'on peut faire tourner du WordPress, du Drupal sur du SQL Server, très bien. Alors ça ne veut pas dire que dans le monde .NET, il n'y a rien, bien sûr. Il y a aussi plein de solutions de CMS .NET.
Qui sont elles aussi open source.
Qui sont aussi open source. .NET Nuke, Orchard. Orchard qui est écrit par des équipes Microsoft, mais .NET Nuke qui est purement communautaire.
Également, il y a d'autres CMS comme Umbraco par exemple.
Après, il y a des CMS open source slash commerciaux, Umbraco a une présence commerciale. Bien sûr, il y a beaucoup de solutions pures .NET. Mais la plateforme web, c'est aussi ça. Voilà. C'est aussi pouvoir faire tourner un Drupal sur ma plateforme Windows. Et un dernier petit mot pour SharePoint.
On se refait pas quand même.
On peut pas, pas mentionner SharePoint. Ouais. Donc SharePoint Server for Internet Sites, c'est pas d'open source, c'est la solution SharePoint donc de Microsoft,
d'accord.
Qui a un volet, on va dire un aspect CMS.
Hein. D'accord.
Donc, quand on déploie SharePoint en entreprise pour faire un portail, on a un CMS intégré, ok. Mais aussi on peut décider d'acheter SharePoint Server for Internet Sites spécifiquement pour faire un site internet web public.
D'accord.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui est utilisé plutôt par des grandes entreprises,
faut
bien l'avouer, et surtout des entreprises qui, outre le CMS, voient l'opportunité d'utiliser les autres fonctionnalités de SharePoint, comme la gestion documentaire, les workflows, les Office Web Apps.
D'accord, donc on peut imaginer par exemple un SharePoint collaboratif en intranet, dans lequel on va élaborer le contenu en équipe avec des workflows, des exactement. Validations de documents, etc. Et tout à la fin, ça se retrouve poussé sur le web. Suite internet. À des processus très normalisés, etc. Mmh. Et le CMS SharePoint va être utilisé pour publier ça sur
la présentation. Voilà. Donc là, on est plutôt de la solution d'entreprise, c'est de la plateforme .NET évidemment. C'est une approche plutôt progicielle.
Ouais.
Et c'est intéressant quand on veut profiter de tout ce qu'il y a dans SharePoint. Et puis probablement parce que on utilise aussi SharePoint effectivement en intranet.
On va avoir des synergies. On va avoir une continuité.
Exactement, sur la technologie.
D'accord.
Voilà.
Très bien, eh bien, merci bien Thomas.
Merci Benjamin.
Donc le contenu est disponible à quelle adresse Thomas?
Web.archims.fr. Il n'y a pas plus simple.
Ah oui, ça c'est simple.
La souris.
Ok, la souris.
Le focus.
Ressources. Retrouvez les ressources à http://architech.archims.fr.
C'est une abréviation, ça ? C'est un acronyme ?
Et voilà, c'est tout pour cette fois.
À bientôt.
Merci.